Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans l'antre du Ridicule Morbide. Bienvenue chez Murder Wine and Cheese. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Oui, ça m'aura pris du temps, mais je suis de retour pour un nouvel épisode. J'ai une petite question à vous poser. C'est quand la dernière fois que vous êtes allé chez le boucher ? Que vous êtes allé chercher votre petit bout de barbac, que vous avez eu une petite conversation banale avec le mec derrière le comptoir. Comment vous vous êtes senti? Bien, n'est-ce pas? Pourtant, c'est quand même bizarre d'être dans un endroit avec des corps découpés et du sang partout. Est-on vraiment sûr d'où vient ce sang? Dans l'affaire dont nous allons parler aujourd'hui, je pense que les clients auraient aimé savoir ce qui se passait derrière le comptoir. Aujourd'hui, je vous parle de l'affaire Béranger Browns. J'aimerais pouvoir vous parler en détail de la vie de Béranger Browns, mais on n'en sait malheureusement pas grand-chose. On sait seulement que c'était un enfant colérique dont les parents étaient séparés. Franchement, je sais pas ce qu'un enfant doit faire pour que des années après, la première chose qui vient à l'esprit des gens pour le décrire, c'est colérique, mais rien que d'y penser, je flippe un peu. Bref, Béranger grandit dans un milieu peu aisé, mais il est travailleur, et il réussit à se frayer un chemin dans la société. Ainsi, en 2005, à 43 ans, il a plusieurs boutiques à Paris et gère notamment une charcuterie italienne au marché Saint-Martin. Il a aussi sa petite famille. Il est marié et a deux enfants. Il tient beaucoup à sa famille, qui a dû pas mal morfler, puisque ses crises de colère ne se sont pas calmées avec l'âge. D'ailleurs, même les commerçants du marché Saint-Martin se plaignent de ces crises, puisque Béranger n'hésite pas à gueuler sur ses clients, voire à les agresser physiquement. Mais le cœur de Béranger n'est pas tout noir. Il aime beaucoup sa femme, ses enfants et sa maîtresse, Christelle. On sait un peu plus de choses sur Christelle Leroy. Elle est la troisième de cinq enfants et a grandi à Montreuil. Elle a aussi un caractère bien trempé et est très rebelle. Elle sèche les cours, elle est imprévisible. Niveau amour, une fois en âge, elle sort souvent avec des hommes plus âgés, souvent mariés aussi. L'un de ces hommes est Yvan. Christelle finit par tomber enceinte de lui. Il décide alors de quitter sa famille pour se mettre officiellement avec elle. Quel homme! Le couple s'installe ensemble mais la phase de lune de miel ne dure pas longtemps. Christelle veut être mère au foyer, mais Yvan n'est pas d'accord. En même temps, la famille de Christelle s'en mêle et elle finit par avorter, ce qui accélère la fin du couple. Quelques années plus tard, Christelle rencontre Gilles, un poissonnier de 16 ans son aîné. Gilles quitte sa femme et ses enfants pour elle, et cette fois, la lune de miel dure un peu plus longtemps. Assez longtemps pour que le petit Lucas naisse en octobre 2000. Cependant, longtemps ne veut pas dire toujours. En effet, Christelle trouve que Gilles n'est pas assez attentionné et trop radin. De plus, elle continue d'aller régulièrement en boîte de nuit, et le couple atteint le fond en 2004 et se sépare. Christelle retourne alors vivre avec sa mère, avec Lucas, et trouve un boulot de vendeuse dans une charcuterie du marché Saint-Martin. Eh oui, celle de Béranger Browns. Quand Béranger rencontre Christelle, c'est le coup de foudre. Les deux entament rapidement une liaison, malgré le statut marital de Béranger. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment un problème puisque sa femme est au courant de tout et l'accepte à condition que Béranger n'abandonne pas la famille. Franchement, ça, c'est un niveau d'amour que je comprendrai jamais. Comment ça t'acceptes que ton mari aille voir ailleurs? Faut se libérer, ma belle. Bref, Béranger fait tout pour Christelle. Il lui achète un scooter, des bijoux, un manteau de fourrure. Il lui loue même un appartement dans le 10e arrondissement de Paris. Et quand je dis louer, je veux dire qu'il paye le loyer. Christelle, vraiment, elle est à deux doigts de manger Gucci au petit déjeuner tellement elle est gâtée. Mais tout n'est pas rose dans le couple. Béranger et Christelle se disputent souvent, en public parfois, et le petit Lucas, 4 ans, a beaucoup de mal à accepter Béranger. Durant la première année de la relation, Christelle tombe enceinte de Béranger, mais préfère le quitter et avorter. Cette séparation n'a été que temporaire, car Béranger a écrit une lettre à Christelle en disant à quel point il l'aime, qu'elle est pour lui comme de l'oxygène, que son cœur est marqué à vie, bla 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 bla. Et Christelle est retombée love de son charcutier. Pour le meilleur, et surtout pour le pire. Le dimanche 20 février 2005, Béranger dépose Christelle chez elle après le travail vers 14h. Le couple se dispute de nouveau, mais cette fois la fin ne sera pas la même. Cette fois, c'est plus violent. Christelle se retrouve je ne sais comment dans sa salle de bain où Béranger la rejoint. La dispute continue et devient physique. À ce moment-là, Lucas assiste à la scène et commence à faire une crise. C'est alors que Béranger lui donne un coup. Christelle le gifle et Béranger commence à voir rouge. Et c'est le drame. Il étrangle Christelle et paniqué, étrangle aussi Lucas avant d'étouffer le chien de la famille, Mabel, parce que ses aboiements l'effrayaient. Et puis il redevient calme. Il prend le téléphone de Christelle et part rejoindre sa femme vers 16h. La nuit suivante, il revient dans l'appartement et emmène les corps au marché Saint-Martin dans son arrière-boutique. Il enfile son tablier et comme s'il s'occupait de simples carcasses d'animaux, il découpe les corps. Puis, durant les 4 jours suivants, il éparpille les morceaux dans différentes poubelles. Il met les deux têtes dans des seaux dans lesquels il coule du ciment avant de les jeter dans les bennes du marché. Et puis il reprend sa vie. Le 22 février, la mère de Christelle attend que celle-ci vienne déposer Lucas chez elle. Mais personne n'arrive. Elle commence à s'inquiéter. Les choses ne s'arrangent pas lorsqu'elle reçoit un appel du père de Lucas. Il lui explique que Christelle devait venir à un anniversaire avec Lucas dimanche, mais qu'elle n'est pas venue. C'est bizarre, ce n'est pas dans les habitudes de Christelle de disparaître comme ça sans donner de nouvelles, même avec son caractère. La famille de Christelle va une première fois au commissariat, mais les policiers ne les prennent pas au sérieux. Christelle a un caractère imprévisible, et en plus on est dans une période de vacances scolaires, donc pour eux, elle a sûrement emmené Lucas en vacances. Le 23 février, Béranger appelle la famille et leur dit que Christelle n'est pas revenue travailler et qu'il est inquiet. Il leur propose de venir récupérer un double des clés de l'appartement, et la mère et la sœur de Christelle acceptent. Dès que les deux femmes voient Béranger, elles le trouvent suspect. Il est nerveux, il n'arrête pas de zipper et dézipper sa veste, et il a 2 griffures sur le visage. Il leur dit que c'est parce que sa vitrine lui est tombée dessus, mais elle n'y croit pas vraiment, et pense au fait que Christelle leur avait dit qu'il pouvait être violent. Mais ce n'est pas encore le moment de balancer des accusations. Quand la sœur et la mère de Christelle arrivent dans l'appartement, tout est là. Et je veux dire tout. Il y a les sacs, les manteaux, les cigarettes de Christelle sans lesquelles elle ne sort jamais. Il y a même des vêtements mouillés qui attendent d'être sortis de la machine. Elle décide de retourner au commissariat et arrive à convaincre les policiers d'aller voir l'appartement, mais ceux-ci n'y voient rien de suspect. C'est là que la mère de Christelle décide de faire appel aux médias. Cependant, seul le nouveau détective répond à son appel. Le journaliste Nicolas Delier se rend à l'appartement le 24 février et découvre des traces de sang sur la porte d'entrée. Donc lui, il les voit, mais pas les policiers. Ok. Je devrais dire autre chose que ok, mais... Ok. Nicolas Delier, après cette découverte, va interroger Béranger, qui semble calme et insiste sur le sale caractère de sa maîtresse. Perso, je me concentrerai sur ce qui permettrait de la retrouver, mais je suis pas une connasse de meurtrière, donc... Après cet échange, Nicolas va voir la police pour l'informer de sa découverte. Les forces de l'ordre réagissent enfin, et la brigade de recherche des personnes disparues est sollicitée, puisque les éléments ne sont pas encore assez sérieux pour solliciter la brigade criminelle. Le lendemain, Béranger est enfin interrogé par la police. Il explique que le dimanche de la disparition, il a raccompagné Christelle chez elle vers 14h. Le couple s'est un peu disputé, mais c'est tout. Les policiers remarquent les marques sur son visage, mais rien d'autre de vraiment suspect. Ils interrogent aussi la propriétaire de l'appartement de Christelle, qui affirme l'avoir vue le lundi, ce qui voudra dire que Béranger ne serait plus la dernière personne à l'avoir vue. Nous savons que ce n'est pas vrai, et je ne saurais vous expliquer pourquoi elle a dit ça, mais elle l'a dit, et on va devoir faire avec. Dans les jours qui suivent, Béranger a l'air inquiet, et est même vu avec les larmes aux yeux dans sa boutique. Il a l'air tellement sincère que même les proches de Christelle commencent à douter de sa culpabilité. Mais il est coupable. La rentrée arrive, et Christelle, Mabel et Lucas sont toujours introuvables. Les comptes bancaires de Christelle sont inactifs. La police fait une nouvelle tournée d'interrogatoire, et Béranger continue de feindre l'ignorance. Le dossier est alors transmis au procureur, qui saisit enfin la brigade criminelle. À partir de là, tout s'accélère. Le 4 avril, les enquêteurs découvrent que le téléphone de Christelle a borné le jour de sa disparition, à 22h16, près du domicile de Béranger. 10 jours plus tard, ils découvrent que l'appartement de Christelle a été vidé. Par Béranger. Celui-ci explique que la propriétaire veut relouer l'appartement et que les meubles et les affaires de Christelle et Lucas sont dans un hangar du marché Saint-Martin. Les enquêteurs fouillent le hangar et découvrent un papier faisant état d'un rendez-vous chez le gynécologue que Christelle n'a pas honoré. Elle était enceinte. Les enquêteurs retournent voir Béranger et cette fois elle transpire à grosses gouttes. Il sent que la fin est proche. Le 7 juin, Lui et sa femme sont placés en garde à vue. Au début de son interrogatoire, il maintient sa version, mais il la modifie un peu. Il a bien déposé Christelle chez elle à 14h, s'est disputé avec elle, est parti, mais il est revenu ensuite chercher quelque chose. Il l'a alors croisée dans la rue, seule. Elle lui aurait alors demandé de l'argent. Les enquêteurs ne croient pas un mot de ce qu'il raconte. La femme de Béranger finit par être libérée, et Béranger est mis face au relevé téléphonique qui contredit sa version des faits. Et là, il craque. Il avoue tout, et explique être sorti de ses gonds. « Je n'étais plus moi-même », qu'il dit. « Si, Béranger, t'étais parfaitement toi-même, t'as juste pas assumé. » Il explique méthodiquement ce qu'il a fait des corps, qui ne seront malheureusement jamais retrouvés. Le procès de Béranger Bruns débute le 23 février 2007. Béranger est froid, raconte tout de manière très méthodique, et parle même de ses projets pour quand il sortira de prison. La famille de Christelle, elle, est dans tous ses états. La mère de Christelle s'évanouit deux fois. Même l'une des filles de Béranger s'effondre. Sa femme, par contre, continue de le défendre et dit qu'il n'était pas lui-même. Vraiment un niveau d'amour, cette femme, je comprends pas. Bref, le mardi 27 février 2007, la cour d'assises condamne Béranger Bruns à 30 ans de réclusion criminelle, mais sans peine de sûreté, ce qui signifie qu'il peut à tout moment obtenir une libération conditionnelle. Béranger ne fait pas appel de cette décision et devient un détenu modèle rêvant de s'installer à l'étranger après sa libération, là où on ne saurait rien de cette affaire. Sa femme continue de le soutenir et lui rend visite régulièrement. Sans corps à enterrer, la famille de Christelle et Lucas fait installer une plaque sur le caveau familial au cimetière de Montreuil. Et c'est ainsi que se termine cette affaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette affaire sur le site web murderwinecheese.com ou sur Twitter, @mwacpod, moicpod. Et si vous avez une affaire à me suggérer, n'hésitez pas à le faire. Et si vous souhaitez faire un don, n'hésitez pas à le faire non plus. Le lien est sur le site. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Je sais pas quand est-ce que vous allez écouter cet épisode. Et je vous souhaite de trouver un billet de 10 par terre. Salut !